Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau rendez-vous de 100% foot, l'émission pour les amoureux et les passionnés de foot. On se retrouve comme chaque semaine avec mes deux acolytes, Franck et Patrick. Bonjour à vous.
Bonjour. Salut. Thierry.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà. Voilà, on va revenir donc sur ce week-end pascal de foot avec la Ligue 2 et Martigues, le National avec Aubagne et le gros morceau, ce sera l'Olympique de Marseille, la Ligue 1 avec la réception de Montpellier au Stade Vélodrome. Voilà, on va commencer de suite ce programme avec la Ligue 2 et la 31e journée avec le FC Martigues qui se déplaçait sur la pelouse du stade d'Ornano face au stade Malherbe de Caen, le dernier lanterne rouge de ce championnat de Ligue 2. Et pour les joueurs d'Aki Malek, ça a été un succès par 3 buts à 0. Voilà, avec 3 buts signés Solvay, Lucas Mendy et Robin. Voilà, donc avec ce succès en terre normande, les Saint-Éor occupent la 16e place à 3 journées de la fin avec 31 points et 3 points d'avance sur Clermont qui est avant-dernier de ce championnat.
C'est
voilà,
plus qu'encourageant, hein, cette 31e journée de la Ligue 2 est plus que évidemment intéressante dans la mesure où tu viens de le citer sur... Maintenant, on voit le classement. Hein,
les résultats sont favorables pour le FC Martigues.
Et il faut évidemment, en plus de cela, c'est bien que Clermont ait perdu à domicile face à Troyes.
Ouais. 2 à 0 pour...
Que Rodez ait perdu face à Laval également. Le Red Star a fait nul face à Metz. Il est évident que là, la prochaine journée, eh bien, c'est demain.
Voilà, vendredi soir, avec un déplacement du côté Roudourou, du stade du Roudourou.
À Guingamp. Donc, Martigues, évidemment, doit engranger des points, même si Guingamp est mieux placé. Voilà, le Red Star, par contre, recevra Clermont. Là, un match nul serait plutôt intéressant. Et Rodez, jouera contre, me semble-t-il, le Paris FC. Donc, Martigues est dans les starting blocks pour justement rester dans cette position de barragiste idéale, avantageuse, et on y croit.
Voilà. Ouais. Avec Patrick, même, sur le AC Martigues.
Très bon match à Caen, où tu vois la différence entre une équipe qui se bat, parce que franchement, c'est des fois un peu limite, Martigues, mais c'est courageux, et une équipe qui a baissé les bras, qui ne joue plus. Ils ont marqué rapidement, au bout de 10 minutes, ça a été fini, Caen, voilà. Et parce que quand tu regardes les effectifs, c'est largement supérieur à Caen. Par contre, là, malheureusement, tu vas à Guingamp qui joue une qualif en barrage. Ouais. Donc, ça va être compliqué.
Également, voilà.
Voilà. Mais c'est vrai que la chance que tu as, c'est que Clermont joue à l'extérieur, que le Red Star et tout, ou Rodez, donc tu peux espérer
Red
gratter.
Star, Clermont, absolument.
Ça me paraît difficile, ça me paraît très difficile d'éviter les barrages. Même fait un barrage, tu es encore en biais, quoi.
Mais c'est vrai que là, cette équipe de Guingamp qui reçoit demain soir le FC Martigues, elle a perdu sur la pelouse de Amiens le week-end dernier, 3 buts à 2. Et c'est vrai que là, pour l'instant, elle occupe la 5e place avec 48 points.
Oui. Que les hommes d'Hakim Malek gardent ce rythme et cette qualité qui se traduit par des victoires.
On rappelle que les barrages, c'est le 4e et le 5e qui se rencontrent. Le vainqueur rencontre le 3e. Et le vainqueur du match 3e, 4e, 5e rencontre le 16e de Ligue 1. Donc c'est un peu le parcours du combattant.
Pour l'accession, pour le maintien également.
Voilà, Guingamp, tu n'as rien à perdre. Donc les mecs, ils vont être affamés. Hein. Mais bon, Martigues va jouer sa chance et il faut qu'ils y croient. Et au pire, s'ils sont barragistes, ça veut dire que ça te laisse une chance supplémentaire de t'en sortir, quoi.
Et après ce déplacement à Guingamp, il restera 2 journées dans ce championnat de France de Ligue 2 avec la réception du Paris FC qui est dauphin de Lorient, leader de ce championnat de Ligue 2, la semaine prochaine à Turquin. Et dans 15 jours, il y aura un déplacement, un déplacement compliqué chez le leader au stade du Moustoir face au FC Lorient, leader de ce championnat.
Oui, c'est sûr que tu termines par les deux qui vont monter en Ligue 1, normalement.
Voilà. Le PFC et le FC Lorient.
Le FC Lorient. Et c'est compliqué parce que surtout PFC, le vendredi, c'est une équipe qui a besoin d'assurer sa montée. Hein. Donc les mecs, ils ne vont pas... Ils ne vont pas s'amuser à jouer sur
le papier, ça reste
match,
incertain, mais voilà. Tout de même, Martigues doit tirer son épingle
oui,
du
tu
jeu.
Peux, tu
et en a la capacité.
Tu
ouais.
peux accrocher un nul, c'est déjà une bonne chose. Voilà.
Voilà. Ben, on referme ce chapitre Ligue 2 et on enchaîne avec le National et Aubagne qui s'inclinait sur la pelouse du leader, l'AS Nancy Lorraine, 2-0. Voilà, donc pour les Aubagnais...
Malgré une belle prestation de Yacine Benatab,
qui a signé au
FC Nantes, ouais, mais enfin, il risque de faire cruellement défaut à cette équipe la saison prochaine. En tout cas, belle prestation de sa part qui n'a pas empêché la victoire de Nancy 2-0.
Voilà, on jouait la 30e journée dans ce championnat national et donc malgré cette défaite, bon, les joueurs aubagnais occupent la 10e place avec 36 points.
Normalement, le maintien est largement assuré. Pas de...
Oui, sachant que Rouen est à 37 points, 8e, le 9e, Concarneau à 36 points comme Aubagne, et derrière Sochaux à 35, Quevilly à 34. On est vraiment dans une position idéale pour le maintien et on ne doit pas jouer plus. Bon. Voilà. Également, Thierry, le 25.
Le prochain rendez-vous, c'est demain.
Voilà.
Demain, avec la réception à...
des Castelroussin, à Aubagne, à Delâtre, Châteauroux.
Voilà, cette équipe Castelroussin qui occupe l'avant-dernière place du classement de ce championnat national.
Donc un money time plus que favorable.
Oui, si tu arrives à les battre, tu les laisses derrière et ils ne te rattraperont pas, donc ils sont avant-dernier, donc il faut absolument un bon résultat. Mais l'équipe a l'air solide, donc...
Et c'est vrai qu'après cette rencontre, contrairement à la Ligue 2, il restera 3 journées, donc... Voilà, le dernier rendez-vous, ce sera la réception de Valenciennes qui est prévue le 16 mai, voilà, au stade de Lattre. Et voilà, entre-temps, il y aura la réception de Orléans la semaine prochaine.
D'Orléans, c'est
voilà,
ça.
Voilà,
l'équipe d'Orléans. Pas de soucis à peut se faire pour notre équipe provençale Aubagne.
Voilà. Et l'avant-dernière journée, ce sera un déplacement dans le Gard face au Nîmes Olympique qui est dernier de ce championnat national.
Les crocodiles. Là.
Voilà, 17e avec 27 points. Voilà, donc plutôt un parcours, un calendrier plutôt favorable pour les Aubagnais.
Un parcours fort honorable.
Ouais.
Dis quand même un mot sur Nîmes. Il y a cinq ans, je crois, cette équipe était en Ligue 1. Ils sont descendus, des erreurs de gestion, un président spécial.
Une fois n'est pas coutume.
Ils se retrouvent en Ligue 2, ils se retrouvent relégués en National, et là, ils vont tomber en National 2.
National 2 pour les crocodiles limois.
Ils ont perdu le statut pro, toutes les conséquences que ça a, les licenciements de salariés et tout.
L'impact est énorme.
C'est une sacrée chute pour l'équipe, qui est quand même un bastion du foot français.
C'est vrai qu'on a connu le Nîmes Olympique parmi l'élite et en Ligue 1, et c'est vrai que c'est une longue descente aux enfers pour nos amis gardois et cette équipe des crocodiles nîmois qui occupe la place de lanterne rouge dans ce championnat national à 3 journées de la fin. Donc voilà, on suivra avec attention les prochaines semaines pour cette équipe gardoise.
La descente aux enfers est plus qu'annoncée et elle est certaine, malheureusement.
Voilà, on en a terminé avec la Ligue 2 et le National. On va attaquer l'Olympique de Marseille et la Ligue 1 avec...
Une petite parenthèse au préalable, peut-être parlons sur des nouvelles fort intéressantes après le foot amateur. Nous y sommes, la D2 Arkema.
Voilà, la D2 Arkema, donc les féminines de l'Olympique de Marseille qui jouaient ce week-end, Franck.
Absolument, elles nous mettent en joie, d'autant plus avec leurs résultats. Le résultat tout court, il se trouve que Lens, c'est une chose et première de ce championnat, a battu le FC Metz, par le FC Metz, 3-2. Orléans, a été battu par l'OM, notre équipe qui est à présent seconde de cette division. 2-0, l'OM a battu Orléans. Et ensuite, évidemment que sur le classement, l'OM féminine est deuxième à 36 points. Lens est en première de cette division à 39. Donc, c'est jouable plus que cela. L'accession va se jouer entre Lens et l'OM. Et vu le nombre de matchs restants, nous allons attaquer. Il ne reste que 3 journées à disputer la 20e. L'OM recevra au campus Le Mans, voilà, le 27 avril. Ensuite, l'OM ira à Saint-Malo un peu plus tard, le 11 mai. Et ensuite, l'OM recevra au campus Toulouse le 16 mai. Donc, trois matchs à jouer. 3 points à reprendre sur Lens, qui est premier de cette division. Et l'OM est là avec 36 points, donc prête à accéder, et nous l'espérons de tout cœur, à la D1 Arkéva la saison prochaine.
Voilà, qui est dit. Donc, on enchaîne avec la Ligue 1 et la 30e journée. Je vais vite revenir sur les résultats de cette journée. Vendredi soir, ça avait commencé avec le Stade Rennais qui a battu Nantes à domicile 2-1. Samedi, le PSG a battu le Havre 2-1. Monaco et Strasbourg ont fait match nul 0-0. Dans la soirée, l'OM a battu Montpellier 5-1. On va y revenir en détail plus largement. Dimanche, Lille a battu Auxerre 3-1. Brest a été défait à domicile face au Racing Club de Lens 3-1. Reims a battu à domicile Toulouse 1-0. Nice s'est défait d'Angers à l'Allianz Riviera 2-1. Et enfin, en soirée, match de clôture, Saint-Étienne a battu l'Olympique Lyonnais dans ce derby de la région Rhône-Alpes 2-1. Avec
un match
émaillé d'incidents avec le carton rouge annulé à Lucas Tassin sur la faute de Coco Tolisso, et enfin la pièce jetée sur un des adjoints de monsieur Le Texier qui dirigeait cette rencontre.
Avec, évidemment, sans parler de l'arbitrage en lui-même, il est évident qu'on a donné quelques vacances forcées à M. Le Texier, hein, qui va un petit peu se reposer, accumulation de matchs arbitrés ces derniers temps, peut-être. C'est comme les joueurs. Hein.
Nous pour nos auditeurs, on rappelle juste que François Le Texier était au sifflet de Real Madrid.
Absolument.
Arsenal, la semaine dernière, sur la pelouse du Bernabéu, en quart de finale retour de la Champions League.
Donc, des erreurs non pas coupables, mais des réactions peut-être inappropriées sur ce match dans son rôle d'arbitre principal. Et évidemment qu'il y a eu quelques incidents qui en ont découlé. Il y aura une décision très probable, très prochaine au mois de mai, justement, pour savoir un peu plus sur quelles seront les sanctions données.
Oui, je crois que la LFP a mis la décision en délibéré et ce sera rendu le 7 mai. Voilà. Ah. Donc, on suivra ça dans un peu moins de 15 jours pour savoir.
Ça va être très compliqué parce que la jurisprudence sur la bouteille que Payet avait prise à Lyon.
C'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup d'antécédents ces derniers temps dans ce championnat de France de Ligue 1.
Montpellier-Clermont, le gardien de Clermont s'était pris un pétard. Il y avait aussi Anthony Lopez à l'époque où il jouait à Lyon qui avait pris un pétard à Metz. La jurisprudence, c'est un point de pénalité, enfin trois points, dont un ferme et deux avec sursis. Et là, comme tu as la bagarre pour la place de barragiste entre Le Havre et Saint-Étienne, on verra si la Ligue a le courage d'appliquer les règles.
Situation hyper complexe à gérer.
Parce que tu es en train de les... Et donc, d'après ce que je regardais hier, je regardais sur la chaîne de l'équipe les trucs, tu commences à voir les procédures juridiques qui se mettent en place avec Lyon qui, à mon avis, a été volé, parce que si Stassin prend un rouge la demi-heure de jeu...
Pour revenir à ce derby,
malheureusement... Tu fais 1h11 contre 10, et c'est lui qui met le second but de Stéphanois.
Oui, c'est sûr, ça change beaucoup de choses. Il y a eu le coup de gueule aussi après la rencontre de John Telstor,
lyonnais. Il prépare la demande de dédommagement, ou plutôt le passage à la DNCG pour dire « Je devrais être en Ligue des Champions, ne me sanctionnez pas. »
C'est politique. Financier comme débat.
C'est une magouille parce que il n'y a jamais eu, c'est le règlement de la FIFA et de l'UEFA, qu'un match il est fini, tu ne reviens pas sur une décision en plus jaune-rouge. Moi je pense qu'il y avait rouge, comme pratiquement tout le monde.
Ça semble plus qu'évident.
Mais bon, une erreur d'arbitrage, c'est une erreur d'arbitrage. Tu n'as jamais eu dans l'histoire.
Et surtout qu'en plus, je crois qu'il y a le diffuseur d'Azen qui a quand même transmis l'enregistrement de conversation entre François Le Texier et l'arbitre de la VAR.
C'était Monsieur Delageau.
Oui.
Et c'est Delageau qui plante Le Texier parce que la manière dont il lui dit à part rouge.
Donc la collaboration, l'entente n'a pas été.
Il envoie à l'abattoir parce qu'après. Tu regardes l'action dans son intégralité, à vitesse normale et même au ralenti, mais entière. Le rouge, il ne se discute pas pour moi. Hein, le mec, c'est... Alors, ce n'est pas méchant, il n'a pas fait exprès, le gars.
L'erreur est humaine, mais tenter de la reconnaître.
Et là, l'arbitre a reconnu qu'il s'était trompé. Et le mec du vent, il lui dit, regarde, vérifie, alors que ce n'est pas une erreur manifeste, le rouge qu'a sorti le Texier. Et là, tu te rends compte qu'il y a peut-être un problème avec le VAR, c'est-à-dire qu'on t'appelle des fois on ne t'appelle pas. Quand tu sais que le fameux match à Monaco où Singo, il met le pied dans la gueule de Donnarumma, le mec il sort, il avait une pointe de suture et sur la gueule, il a encore les cicatrices.
Il a encore la cicatrice.
Il n'a même pas eu un carton jaune.
Il a toujours pas fait jurisprudence, cette
action. Et le VAR ne l'a pas appelé pour lui dire, oh, fils, il y a rouge, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir qu'il règle ça, parce qu'il y a eu aussi une histoire à Brest où le mec, il fait une main. Alors, il y a péno, il n'y a rien à dire, mais tu lui mets en rouge pour une main dans la surface. Ouais. En fait, il contre un centre du bras, quoi.
Ouais, ce match du Stade Brestois face au Racing Club de Lens qui a mis l'entraîneur brestois Eric Roy dans un état quasiment second.
Hein. Il y a de quoi.
On va en parler, puisque le Stade Brestois, ce sera le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille.
La justesse des interprétations arbitrales reste justement une problématique que nous ne résoudrons pas demain la veille.
Oui, mais parce que le problème, c'est que l'arbitre, il siffle péno. Le péno, il est indiscutable. Le mec, il contre un ballon du bras. Hein.
Ouais.
Le bras, il n'est même pas collé au corps. Il est légèrement détaché. Par contre, lui mettre un rouge sur cette action, c'est... Voilà, il y a péno. Le péno, il est transformé. Ça va. Et là-dessus, c'est sûr que c'est juste avant la mi-temps. Tu vas jouer une mi-temps à... Tu es mené 1-0, du coup, et tu vas jouer à 10 une mi-temps. Je comprends qu'Eric Roy, il est pété un câble.
Hein. Et tenir compte de tous ces paramètres pour un arbitre reste la goutte qui a fait déborder le vase, sur ces conditions-là.
Voilà. Et tu te demandes pourquoi le VAR, ils appellent pour demander en rouge. Quoi. Voilà.
C'est vrai que ça fait quand même énormément d'erreurs sur cette journée de championnat. Et on le voit qu'il y a des problèmes d'arbitrage récurrents qui perdurent depuis plusieurs semaines dans ce championnat de France de Ligue 1, donc voilà. On va parler de l'Olympique de Marseille, si vous le voulez bien, messieurs, avec ce match au Vélodrome et ce succès 5-1 pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Voilà, au passage, les joueurs de l'OM ont pris la destination de Rome pour un stage pour la fin de saison. Voilà,
ils y sont depuis
48 heures.
Mardi soir.
Donc déjà juste un petit mot concernant ce ritiro, comme ils disent en Italie, l'initiative de Roberto De Zerbi et qui a été validée par le directeur du football Mehdi Benassia et Pablo Longoria, le président du club.
D'abord, ça a peut-être dû porter ses fruits dans la Serie A il y a quelques années. C'est une chose courante qui se produit dans leur championnat, mais ça reste tout de même assez particulier. Qu'ayant De Zerbi comme entraîneur chez nous, c'est très très bien de cela, mais bon, Patrick, on va pouvoir justement parler du contexte qui a permis justement cette mise à l'écart et ce rassemblement de ces joueurs avec un accompagnement assez conséquent malgré ce. Cela va-t-il porter ses fruits?
C'est ça, ça a un coût financier. Et puis bon, en plus, c'est quand même une délégation assez importante de l'OM qui est partie, puisque je pense qu'on dénombre pas moins de 50 personnes hein, entre les joueurs, les membres du staff.
Il y a tout le staff médical, le staff technique.
Alors, et la direction. Bon, après, on sait que Pablo Longoria, pour des obligations professionnelles, s'y rendra occasionnellement. Donc, prévu qu'il rejoigne le groupe un petit peu plus tard. Dans
il y a
leur
pas mal
lieu
de paramètres
retraite.
À gérer, tout à fait. Voilà. Ouais.
Mais moi qui suis un peu le championnat italien, parce que c'est de par mes origines italiennes, mais aussi parce que c'est un championnat de très haut niveau. Alors à cette période de la saison, c'est un peu plus rare, mais en Italie,
c'est plutôt quelque chose de...
c'est assez habituel.
Oui, c'est monnaie courante.
Ouais. C'est rare qu'une équipe n'en ait pas une dans la saison. Quoi. Mmh. Et à l'OM, tu en as eu un qui a porté ses fruits quand ils étaient allés 5 jours à Malmort.
À Malmort, mois de novembre, avant la réception de l'AS Monaco au Vélodrome.
Voilà, au Vélodrome.
Qui a porté ses fruits à court terme.
Après la défaite contre Auxerre au Vélodrome et tout, il avait serré un peu les boulons, ça avait eu d'excellents résultats. Et là, moi, je pense qu'il y a deux choses à voir. Une, c'est que tu as 4 matchs, il faut accrocher la Ligue des Champions.
Je crois que le stage à Malmour, il était intervenu après le déplacement au Stade Bollaert, oui, face à Lens.
Voilà. Ouais. Mais tu avais eu le problème du match à la maison contre Auxerre.
Ouais, c'était 15 jours auparavant.
Hein. Voilà, de là, ouais. On rappelle que c'est les joueurs qui en avaient parlé. Je pense que mec comme Rabiot, qui a joué longtemps en Italie à la Juve, parce que la Juve, c'est tous les ans, tiens, des trucs comme ça.
Oui, on sait que c'est quelque chose.
C'est très fréquent chez eux. Il n'est certainement pas
étranger
à ça. Voilà.
Alors, question, justement, quand cela vient des joueurs, ou quand ça vient du staff technique, de l'entraîneur, est-ce que ça diffère dans justement la mise en place de ces mises au vert entre guillemets, hein?
Oui. Alors, on rappelle quand même à nos auditeurs qu'ils n'ont pas trouvé de lieu parce qu'il y a les vacances.
Oui.
Il y a les ponts du mois de mai. Ils n'ont pas trouvé
aussi,
de lieu
aussi,
dans le sud-est. Voilà.
Voilà.
Il y a tout été pris. Ils sont allés à Rome parce qu'ils connaissent l'installation.
Bon, après, il y a l'actualité un peu qui a bousculé les choses le décès
du pape.
On sait que les Olympiens ont pris leur quartier dans la banlieue nord de Rome.
Un très bel hôtel.
Très bel établissement hôtelier avec un beau complexe sportif. Je crois que c'est les installations du Roma City, club qui évolue à l'échelon inférieur dans les divisions italiennes.
Oui, en D4, ils sont en quatrième division.
Voilà, je crois que c'est lui.
Mais moi, je pense que ils ont voulu sortir un peu les gars de Marseille parce que je regarde la...
Après, on a entendu Pablo Longoria et Mehdi Benassia aussi, je pense, à l'interview qu'il a accordée à nos amis de la Provence.
Justement, oui.
Le climat un peu malsain qui régnait au sein de la commanderie et au sein d'entraînement de l'OM.
Est-ce un argument, justement, plus que qui amène cela, au-delà de la cohésion du groupe qui est recherchée et que l'on doit conserver? Il y a ces problèmes extrasportifs dans le giron de l'OM.
Oui.
On se pose
après, c'est pas. Moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est au niveau du timing. À 4 journées de la fin, on est dans la dernière ligne droite.
Surprenant, quoi.
Moi, ce que j'ai constaté.
C'est à ce moment-là de l'année, c'est quand même
surprenant.
Ça semble urgent.
Ce que j'ai constaté, c'est que. Parce que je regarde l'équipe, j'écoute RMC, j'écoute Moscato, parce que Moscato, il me fait marrer. Voilà. Il n'y a pas de miracle. J'écoute moins Rotten parce qu'il ne me fait pas marrer. Mais j'écoute RMC, j'écoute les trucs. L'histoire que l'OM s'en va une semaine, un stage et tout, ils en ont parlé. Alors l'équipe, il y a trois émissions l'après-midi. L'équipe de choc, l'équipe de grève, l'équipe du soir. Ils en ont parlé demi-heure dans chaque émission. Et avec, oui, ils ont tort, ils ont raison, c'est des conneries, c'est bien. RMC, même chose, RTL, même chose, Europe 1, même chose.
Tous les médias se sont saisis de l'affaire et ont essayé de voir si c'était quelque chose de positif ou de négatif.
Truc,
mais bon,
ça ne pourra le dire que dans 4 journées, tu le disais, c'est bien.
À la limite, cette semaine, on parlait plus de ça que de l'arbitre qui peint une pièce sur la tronche à Saint-Étienne ou que des trucs comme ça.
C'est vrai que l'actualité de ce stage en Italie, ça a quand même pris une part prépondérante dans l'actualité footballistique.
Alors, sans tomber dans la parano, l'OM, ça fait vendre. Et c'est vrai que si tu es harcelé par des journalistes qui n'arrêtent pas, par les réseaux sociaux, vouloir enlever les mecs, les mettre dans un endroit tranquille où tu contrôles, c'est pas forcément plus mal.
Au-delà du contexte délétère dont il était question dans l'environnement des Marseillais.
Le contexte délétère, c'est pas le club, c'est autour. C'est des gens autour, Alors, des gens qui traînent à la commanderie, d'ailleurs, on se demande ce qu'ils y font. On revient à des trucs qu'on avait connus à une certaine époque.
Là, on revient un peu dans la face sombre des années précédentes.
Des années Amigo, où il y avait des mecs, tu te demandais ce qu'ils
faisaient. Parce qu'on a déjà vu ça au sein de l'Olympique de Marseille.
Des agents ou pseudo-agents intéressés, plus ou moins, et d'autant plus dans le money time du championnat, qu'on arrive à son terme, où la valse
et
du mercato va démarrer.
On rappelle que il y a des mecs qui traînent censément, ils aident les joueurs, ils sont sympas, ils t'encadrent. On se rappelle que l'affaire Valbuena, la sextape, elle vient de là. Le mec qui devait lui mettre à jour son téléphone et qui a piqué le truc et qui a essayé de le faire chanter.
Voilà, c'est un sujet avec pas mal d'interprétations.
Il y a des drôles d'individus qui traînent et que c'est peut-être ça, parce que quand ils parlent de personnes autour, il parle pas de l'entourage du club, il parle pas des dirigeants. Hein. C'est pas McCourt de Boston qui t'appelle pour faire des trucs. Ouais, ouais. Donc ils ont.
Mais après, je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'il y a plutôt une équipe dirigeante à la hauteur et compétente.
Oui, 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 oui.
Avec Pablo Longoria, Mehdi Benassia,
Fabrizio
Ravanelli dans un rôle un peu plus en marge.
Oui, mais enfin, il est quand même à Rome, il est quand même avec l'équipe, parce que c'est un ancien grand joueur. Et je pense qu'il te reste 4 journées, il y a une place en Ligue des Champions qui est essentielle pour des raisons financières. Il ne s'agit pas de jouer au con. Parce qu'on va parler du match de
Montpellier. Et c'est vrai qu'en plus, ça va être ce résultat. Et comme je le disais précédemment, le match nul de l'AS Monaco à domicile face aux Strasbourgeois, cette équipe marseillaise a récupéré la place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain à 4 journées de la fin.
Une
donc,
journée plus que satisfaisante, en tout cas. Mais il est vrai que là, les matchs qui nous attendent, ben, c'est ceux-là qui vont être décisifs. Et voilà. Donc, 3 matchs d'abord, le quatrième.
On rappelle juste le calendrier pour nos auditeurs.
Oui, absolument.
Il y aura donc la réception de Brest dimanche soir au Vélodrome et derrière 2 déplacements au Stade Pierre-Mauroy face à Lille dimanche prochain le 4 et les 2 dernières journées. Donc ce sera un déplacement au Stade Océane au Havre le 10 mai à 21h et dernière journée au Vélodrome avec la réception du Stade Rennais. Voilà, les joueurs d'Abi Bey qui.
Que les 2 dernières journées se jouent tout le monde à la même heure le samedi 21h.
Voilà, tous les matchs sont programmés samedi 10 et samedi 17 à 21h pour des raisons d'éthique.
Pourvu que ça dure.
D'après ce qu'on peut analyser, tu as 4 matchs, tu es actuellement second avec. Tu as quand même. Des équipes Monaco est à 1 point.
Voilà, il ne faut pas oublier.
C'est
tout
Strasbourg
à
2, Lyon n'est pas loin. Si jamais tu arrives.
Surtout que sur les 4 dernières journées, il va y avoir des affrontements, des confrontations directes entre équipes prétendantes pour aller chercher une place européenne. Donc,
voilà.
On voit qu'il y a pas mal d'équipes qui risquent de perdre des points.
Toi, tu vas à Lille, qui est le match difficile, mais tu vas au Havre, où normalement, si tu joues à ton niveau, le Havre, après que le Havre, ils se battent pour le maintien.
C'est vrai que cette équipe havraise, quand on voit les derniers résultats, là, ils ont perdu au Parc le week-end dernier.
Ils sont dans l'obligation d'avoir des résultats, de gagner.
Et toi, tu as tes 2 matchs au Vélodrome, Brest dimanche et Rennes en dernière journée. Si tu prends les 6 points que tu arrives à faire un bon résultat au Havre, tu es sûr d'être en Champions League.
Patrick, Thierry, très rapidement, il est vrai de tout cela, résumons-le. L'OM 2 secondes, 55 points, autant pour moi.
Oui.
L'AS Monaco, 3e, 54. Lille, et là, 4e, 53. Nice, 51 points. Lyon, 51 points. Strasbourg, 51 points.
Voilà. Et,
après, on passe à Lens à 45 points, qui est 8e. Mais ce Money
Time. C'est fini, je pense.
Mais c'est vrai que là, entre l'OM qui est dauphin derrière le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg qui est 7e, il y a seulement 4 points d'écart entre ces 5 équipes.
4 rencontres à disputer, mais c'est assez un suspense, une suspense de fou qui nous attend.
Et
nous y sommes.
4 points d'écart entre 6 équipes, entre le Dauphin, l'OM qui est second et le Racing Club de Strasbourg qui est 7e de ce championnat.
Voilà. Et donc l'enjeu, il est colossal économiquement. Et alors, il est important pour tout le monde, surtout pour Lyon qui a des dettes pas possibles, mais même pour tous les clubs, il est important. Mais toi, tu sais que si tu n'es pas en Ligue des Champions, financièrement, tu es en galère. Et il y a des joueurs qui vont demander à partir, Rabiot en tête.
C'est peut-être déjà le cas.
Pour certains. Rabiot, il a dit, si on n'est pas en Ligue des Champions, il y a même bien
pas pour Rabiot forcément, mais pour d'autres
très
joueurs.
Mais
c'est vrai qu'on suivra la situation de chacun. Et c'est vrai que de par son statut international et son passé d'ancien joueur de très grands clubs, la Juventus, pour ne pas la citer. C'est vrai que pour Adrien Rabiot, une non-qualification en Champions League pour la saison prochaine, ça signifierait forcément départ loin de Marseille.
On rappelle qu'il est venu libre et que certainement dans les discussions, il y a eu des promesses qui ont été faites. On rappelle qu'en France, le genre de contrat qui dit si on n'est pas en Ligue des Champions, je m'en vais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de clause de départ.
Surtout que l'année prochaine, on sera sur une saison post-Coupe du Monde avec...
D'autant plus, ouais, c'est vrai.
L'équipe de France, donc pour Adrien Rabiot,
un
manque d'exposition sur la plus prestigieuse des compétitions européennes, ça a forcément un impact sur sa carrière personnelle.
Ça, c'est un joueur clé qu'il ne faut surtout pas perdre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Maintenant, on parle d'Enrique, c'est d'actualité pour un départ plus que probable, justement...
En Italie. Du côté de l'Inter Milan.
Peut-être que nos staffs dirigeants, en tout cas la direction, s'occupent peut-être de ce prochain transfert qui ne devrait pas tarder.
Mais tu as par exemple des joueurs que tu cherches à faire revenir qui ne viennent pas si tu n'es pas en Ligue. On parle d'Émeric Laporte, que l'OM voulait en janvier pour renforcer la défense.
Ouais, ben là, il a pris un an de plus.
Voilà.
Émeric Laporte, l'international espagnol, qui évolue en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo à Al-Nasser.
Voilà. Laporte, c'est un mec intéressant. Il ne serait pas très cher, une dizaine de millions d'euros. Il vient si tu es en Ligue des Champions, parce que le mec, il a même le Real qui l'a contacté. Donc je veux
ouais,
dire,
c'est vrai, toi aussi, on parlait de lui dans les...
Voilà. Comme second couteau, j'imagine.
Oui.
Nous avons quelques ambitions, tout de même.
Mais disons que toi, tu te prendrais... On rappelle que De Zerbi, il veut jouer à 4 derrière.
Voilà.
Et il te faut un mec à côté, le Balerdi.
Mais c'est vrai que là, lors de cette intersaison, le gros chantier, ça va être la défense. Ah
ouais.
Et
on
je pense qu'il va falloir énormément recruter dans ce secteur-là. Parce que, comme vous l'avez dit, si l'année prochaine, on joue la Ligue des Champions, avec l'effectif actuel et les joueurs que l'on possède au niveau de la défense, ça risque d'être...
Tout va partir justement de la base
très,
défensive.
Très, très compliqué.
Ouais.
Avec Lirola, Kondogbia, Cornelius, tu vas pas loin.
Après, il faudra suivre aussi la situation de Leonardo Balerdi.
Ouais. Déjà.
Je pense qu'il va falloir surveiller ça avec beaucoup d'attention. On parlait il y a quelques semaines d'un éventuel départ toujours de côté de l'Italie et de l'AS Roma.
Absolument. Alors déjà, va-t-on le revoir en bonne forme sur le terrain le match prochain, oui.
On a entendu Roberto De Zerbi. Il fait partie de la délégation qui est partie à Rome au même titre que les autres joueurs blessés.
Bon.
Et Roberto De Zerbi a dit qu'il voulait absolument retrouver son capitaine argentin pour le match de Brest dimanche au Vélodrome. Donc,
C'est-à-dire dans la relance et puis y compris en vitesse. Là, il a fait un choix que moi, je ne trouve pas mauvais. Murillo, stopper droit. Luis Garcia, stopper
gauche. Après, on rappelle juste que Leonardo Balerdi s'est blessé face à Reims de la trêve internationale il y a un mois.
C'était un intérim, évidemment, qui n'avait pas trop le choix. Les joueurs se sont impliqués de la meilleure des manières. Tu parlais justement de Garcia et de Murillo qui nous ont forcément aidés à continuer à avoir ce trio défensif. Autant pour moi, notre milieu
Kondogbia
que je souhaite de tout cœur conserver l'année prochaine, car elle nous rend de fiers services.
Oui, en
l'occurrence, ça te défend ça trois. Voilà.
Mais c'est vrai que quand tu te retrouves, on va parler de Saint-Etienne où deux de tes meilleurs joueurs, c'est Murillo et Garcia. Ça te montre bien qu'à un moment donné, il va falloir recruter un peu, parce qu'en Ligue des Champions, tu ne vas pas aller très loin. Et donc, même Balerdi, on en parle. Alors, on parle à la Roma. La Roma ne sera probablement pas en Ligue des Champions. Mais,
c'est vrai que quand on regarde le classement du championnat...
Si tu n'es pas en Ligue des Champions, le mec, il peut se poser des questions. Si tu y es, tu peux être sûr qu'il reste, il se plaît ici. Et donc, pour le recrutement, tu as des garçons, ce n'est pas la même limonade... Et puis financièrement, hein, on rappelle que Brest ou...
Je pense que pour un garçon comme Leonardo Balerdi, il y a peut-être la volonté de Roberto De Zerbi de le conserver pour la saison prochaine et de construire autour de lui pour articuler sa défense.
Voilà, c'est un mec qui est bien intégré ici, qui se plaît à Marseille, qui aime bien le club, qui aimait des supporters... Et qui a quand même une belle qualité de relance et qui est relativement rapide, quoi. Donc le truc, c'est la Ligue des Champions te permet d'acheter des trucs. Et on rappelle que Monaco et Brest, ils ont pris plus de 50 millions sur la Ligue des Champions. C'est pas rien, quoi. Je veux dire.
Oui, il y a quand même
la Ligue Europa, c'est
des rentrées d'argent qui sont pas négligeables, surtout pour les clubs français qui sont en très grande difficulté.
Avec les droits télé qui sont à la rue, tu sais pas où tu vas l'année prochaine. Donc c'est vital et je pense que le ritiro, c'est donc la retraite en Italie, c'est ça. Tu as 4 matchs, 4 finales, il faut prendre au moins 3 victoires, donc les gars, on serre les boulons et on referme l'équipe et on s'échappe un peu d'une ambiance malsaine, réseaux sociaux, journalistes qui posent trop de questions.
Une ambiance un peu lourde et pesante qui règne autour du climat.
Bon, rassurez-moi, de la commanderie. De Rome, ils ne rentreront pas en quart pour disputer les matchs en France.
En avion, samedi après-midi.
Voilà, donc le coup d'une fatigue supplémentaire ne serait pas la bienvenue. Mais blague à part, oui.
Parce que c'est vrai que pour organiser tout ça, ça a quand même un coût. On parle de
un million d'euros, d'après ce que j'ai vu, c'est si tu fais... parce qu'après Brest, tu devrais y retourner jusqu'au match de Lille. Ouais. Et après, Lille, c'est-à-dire avant le Havre.
Un point sera fait après le déplacement au Stade Pierre-Mauroy à Lille
après
pour
le match
savoir
de Lille.
S'ils repartent ou pas.
Je pense que
ça
si tu as pris une victoire ou une nulle, tu repars pas. Quoi. Voilà. Donc, ça serait un million si tu y vas les quatre fois.
Mais le jeu en vaudra la chandelle, je n'en doute pas.
Oui, si l'enjeu, c'est une qualif en Ligue des Champions, ça vaut largement la chandelle.
C'est vrai qu'on a entendu les propos de l'entraîneur Roberto De Zerbi et il a dit que ça pouvait changer le cours de la carrière personnelle de tous ces joueurs de l'OM. Donc, le jeu en vaut la chandelle, comme vous le disiez si bien.
Pour revenir au match... Ce que j'ai énormément apprécié, puisque bon, je l'avais déjà dit beaucoup de fois, je suis un virage, c'est que quand l'équipe a été annoncée lors de l'énoncé des noms, lors de l'entrée du club, tout le stade était debout et poussait l'équipe. Et même à la mi-temps, où tu as été vraiment pas beau en première mi-temps, le public, il y a eu un peu bruissé parce que tu n'as pas été très bon.
Bruissé,
mais ça a encouragé à mort. Et ça, c'est important parce que le Vélodrome qui te siffle et qui te rentre dedans, c'est compliqué pour les joueurs. Donc, il faut faire l'unité.
Face à cette équipe modeste de Montpellier qui est dernière du championnat, Lanterne Rouge, donc...
Bon, qui a réussi tout de même à nous marquer un but alors que cette équipe était dans l'incapacité de marquer depuis plusieurs
depuis 4 ou 5
semaines.
Bon.
Ouais, donc,
C'est vrai que cette équipe Montpellier-Rennes, elle n'avait pas marqué le moindre but depuis pratiquement 3 mois, depuis fin janvier. Donc,
on n'est donc pas nos adversaires à se créer des occasions. Là, voilà. C'était un coup de malheureux de Condombia.
Après, pour revenir au match, moi, je pense que la première mi-temps m'a fait peur parce que tu marques un but sur une belle montée d'Ulysse Garcia qui obtient un pénalty. Mais le mec qui fait la faute, tu te le mets. Enfin, un joueur expérimenté, il ne la fait pas. Ben, il le fauche. Hein. C'est un geste un peu stupide. Mm-hmm. C'est un jeune qui a, je crois que c'est son troisième match en Ligue 1, donc il fait une erreur.
Il y avait une équipe extrêmement jeune côté Montpellier, alignée par Zoumana Camara qui vient juste d'arriver au club.
Ils ont intégré qu'ils sont en Ligue 2, ils préparent l'année prochaine et tous les vieux, ils les avaient laissés sur le banc.
Ouais, c'est vrai que dans cette équipe Montpellier, on n'a pas vu TJ Savanier, Andy Delors.
Zoumana Camara, avec son expérience au Paris Saint-Germain avec les jeunes, par exemple, pourra l'insuffler aux jeunes Montpellieriens qui vont reprendre le flambeau.
Non, mais en plus, il a des mecs qui ont des gros contrats, des gros salaires. Ils vont l'aider. Lecomte, le gardien, qui pourtant fait ses matchs. Hein. Ferry, Chautard, Savanier, n'en parlons pas, il va les dégager. Voilà. Donc, c'est clair qu'il
après,
a pris des
après, c'est vrai que
parmi
les joueurs que tu cites, Patrick, il y a quand même le petit Joris Chautard qui a quand même joué avec l'équipe de France olympique et a disputé les dernières Olympiades avec Thierry Henry. C'est quand même un joueur de qualité.
C'est un bon joueur. Le problème, c'est le seul qui soit jeune et qui ait une valeur marchande. Parce que Ferry a 33 ans. Ça va.
Là, on parle de joueurs qui sont plutôt en fin de carrière.
Voilà. Donc lui, c'est le seul qui est jeune et qui a une grosse valeur marchande. Et il y a aussi Modibo Sagnan. Il n'a pas joué contre l'OM parce qu'il était suspendu, je crois, ou blessé. Et il n'était pas contre l'OM. C'est les deux joueurs qui ont une valeur marchande. Donc ils vont les vendre. Ils vont essayer de dégager Savanier, Cazerie, tout ça. Cazerie est en fin de contrat. Ouais, Delors, ils ne vont pas le garder. Cazerie.
C'est juste une gestion logique de la suite et de la saison prochaine pour Montpellier.
Et donc, il a tenté. Ouais. Avec l'inconvénient, c'est que tu avais des mecs qui se sont battus. Parce que les mecs, ils avaient un gros enjeu. Il fallait exister, quoi. Il faut se montrer. Et En première, en seconde mi-temps, ça va. Moi, ce qui m'a un peu rassuré, c'est que tu as repris le match, tu les as...
Mais c'est vrai que cette première période, elle a été extrêmement compliquée pour l'OM. Mis à part ce pénalty transformé par Mason Greenwood
ben, ça a été
juste avant dans les 10 premières minutes, on n'a pas eu énormément d'occasions et de situations véritablement franches et nettes.
Mais oui. Des joueurs d'expérience comme Holberg, justement, entre autres, surtout Holberg, qui apporte à son collectif une envie de ne pas lâcher et de continuer, voilà. De mettre le pied à l'étrier. Quoi.
C'est là que tu voyais qu'il y a un problème, puisque Holberg ou Rabiot, qui sont les deux joueurs d'expérience, et même Rongier, moi je les ai trouvés très prudents en première mi-temps, c'est-à-dire évitant de se projeter trop. Parce que tu sentais qu'il y avait tu craignais un contre.
On pensait une fragilité existante.
Toi, tu penses, Patrick, que c'était les consignes qui ont été délivrées par Roberto De Zerbi?
Est-ce que c'était les consignes ou est-ce que c'est les mecs qui sont
C'est les joueurs qui sont assez intelligents pour gérer ce genre de situation.
Qui sentent l'équipe un peu fragile, un peu... Parce que tes deux stoppeurs sont des latéraux qui jouent stoppeur. Et ton défenseur central, ton patron de défense, c'est un milieu récupérateur. Quoi. C'est un milieu défensif.
C'est vrai que par rapport à l'équipe qui a été alignée au coup d'envoi...
Donc tu fais
par rapport au 11 qui a démarré face à Monaco une semaine auparavant...
Voilà. Ces compensations sont essentielles pour l'équipe.
Et d'ailleurs, quand tu reparles du match de Monaco, tu as joué derrière en début de match. Hein. Là, tu sentais quand même la peur... des couvertures, tu avais des ballons qui repartaient vers l'arrière où on me faisait tourner. Ça va, tu as Montpellier, l'équipe elle est jeune et fragile. Tu n'as pas eu le côté qu'on avait en début de saison où tu vas à l'abordage, où tu rentres, où tu envoies les ballons.
Non, mais fallait-il, comme elle a coutumé ces derniers temps, faire sortir le bloc adverse?
Voilà, le bloc adverse, il ne sortait pas. Et même à 3-0, il ne sortait pas, les mecs.
On peut le comprendre.
Voilà. Donc, après, en seconde mi-temps, ça a été mieux. Tu as tenté. Mm. Et le seul truc de moi qui m'a un peu... C'est qu'en seconde mi-temps, Greenwood, il a joué. Première mi-temps, il a fait 3-4 actions. Et puis, tu ne l'as pas vu.
Mais sur son positionnement, il a été un peu plus impliqué dans
le
replacement.
C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été plus à son avantage.
Il a attaqué, il a joué. Tu as eu une rentrée de Rowe qui était intéressante. Il a mis un joli but.
Très beau.
Et donc, tu as essayé, tu as tenté. Tu as eu les latéraux, puisque le troisième but, c'est donc Murillo qui est stoppeur. Ouais. Qui est monté, qui fait un débordement d'ailier, qui centre en retrait sur Greenwood. Donc, il y a eu une équipe qui a joué. On a retrouvé l'équipe du milieu de saison.
Et voilà. Après, il y a le cinquième et dernier but d'Adrien Rabiot sur une place d'Ismaël Benacer, qui est rentré aussi en cours de jeu.
De la belle ouvrage.
Qui est plutôt accrédité d'une bonne, une bonne entrée.
Voilà, qui a fait une bonne rentrée. Et après, Benacer, son problème, on le connaît, c'est un problème physique, il faut qu'il accumule les matchs, et comme il a souvent eu des pépins physiques, il est des fois...
Là, on a vu que depuis son forfait au Parc des Princes, il y a un mois et demi, c'est compliqué. Hein.
Ah oui,
il a du mal à revenir dans une bonne forme physique, et ça, il a du mal à enchaîner les matchs.
Parce que moi, je...
On peut faire une parenthèse sur le retour d'Harit, justement, et son implication est là, présente, il a envie. Bon, ben, évidemment que la justesse n'est pas encore prête, mais on aura besoin de lui.
Ça, bien sûr, parce qu'Harit, en plus, il a envie de se montrer, il a eu beaucoup de pépins physiques.
C'est vrai qu'il a très très peu joué cette année.
Très peu joué depuis son expulsion contre Paris, il a été blessé plusieurs fois. Et là, il a fait une rentrée. En plus, le stade l'a applaudi.
Ouais.
Il a été très applaudi.
Il a joué le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Il a fait une rentrée intéressante. Il a en tout cas essayé de créer.
Très encourageant.
Et je pense que sur ce que veut faire De Zerbi, c'est s'appuyer sur cette dynamique, un peu le concurrence.
Donc, vous pensez que c'est vrai que c'est un homme sur lequel Roberto De Zerbi compte sur ses 4 derniers matchs?
Oui, parce que...
C'est un joueur sur lequel il va falloir miser pour aller chercher la Ligue des Champions, qui est l'objectif que tout le monde souhaite.
Sa réintégration au groupe est justement une chose extra qui nous apportera que du bonus et qu'on tribuera justement à cette qualification que nous souhaitons tous.
Voilà, parce que quand tu regardes les matchs, le seul créateur, et c'est pour ça qu'il le sort pratiquement jamais, il a essayé de le piquer en le sortant sur un ou deux matchs, c'est Greenwood.
C'est
le Zerbi a essayé. Mm-hmm. C'est le seul qui a des passes, qui distribue, qui tente des frappes. Et Harit, c'est un peu le style de jeu, en moins fort que Greenwood, qui est un joueur de très haut niveau quand il daigne jouer. Voilà. Mais,
et c'est ton meilleur buteur.
Mais c'est ton meilleur joueur. Voilà, c'est ton meilleur buteur.
Meilleur joueur et meilleur
et Harit,
buteur.
Et Harit, c'est le seul qui a un peu ce profil créatif, qui crée des brèches, qui fait des... Alors, il faut qu'il retrouve du rythme.
Voilà, moi, il est un peu dans le même registre que, voilà.
Parce
que Mason Greenwood.
Adrien Rabiot, qui joue milieu offensif gauche, c'est quand même un relayeur, c'est pas un créateur, c'est pas un... Enfin, il est fort.
Et
il
qui
est très
touche
fort,
à tous les registres
mais
en fonction de...
C'est pas sa qualité première, quoi.
Il s'adapte en fonction des, des exigences
de
l'entraîneur.
Il essaie de relancer
et du jeu.
Et je pense que le petit stage à Rome permettra aussi peut-être de le remettre en confiance, mais de le tester un peu. Il rentre demi-heure, qu'il essaie de retrouver un peu, parce que c'est des trucs... De la créativité, tu en as besoin. On l'a vu contre Montpellier en première mi-temps, ça ronronnait, quoi. Mm-hmm. Ah, tu avais le ballon, mais voilà, quoi. Tu as manqué d'appels.
La problématique habituelle.
Voilà. Et donc, là, il a envie de mettre un coup de peps. Mm-hmm. Et donc, Harit est un joueur intéressant parce qu'il a du talent, Harit.
Il a les capacités à provoquer cela.
Donc, je pense que c'est ça. Et malgré les critiques et tout ce qu'on peut dire, l'idée d'essayer de resserrer... pour refaire un commando, en fait, hein, sur les 3-4 dernières journées, est à mon avis intéressante.
La cohésion est existentielle pour ce groupe, et d'autant plus finir cette saison comme nous le souhaitons une fois de plus.
Donc après cette petite semaine passée loin de Marseille, dans la ville éternelle, on se projette avec la réception de Brest, voilà, les joueurs des Rue-Croix qui viendront au Vélodrome dimanche soir pour cette 31e journée de Ligue 1. Comment le perçoit ce match dimanche après ce départ vers l'Italie en début de semaine?
Ben, évitons les actes de piraterie de nos adversaires. Bon, blague à part, il va évidemment ne pas falloir se poser de questions et l'emporter, et de la meilleure des manières, l'emporter tout court sera déjà très
voilà,
bon.
Voilà, parce que le...
Par rapport à la composition d'équipe de Roberto De Zerbi...
Attendons un retour de Balerdi et au repositionnement de Condombia, ou je ne sais, il est fort probable que nous en serons plus dans quelques jours, et ça va très très vite.
Oui, je pense que Balerdi va le tester à Rome là, pendant le stage. Ouais. Ils ne prendront pas le risque qu'il se répète.
Donc, ouais, c'est
parce
vrai
que là,
bon,
tu le perds jusqu'à la fin de la saison.
Donc, après, c'est vrai qu'il reste encore 3 matchs, donc voilà, ce serait vraiment un stupide...
S'il est en état, il jouera.
Ne pas galvauder nos chances.
Et par contre, à mon avis, il laissera Murillo Garcia sur les côtés, parce qu'ils sont rapides, ils vont plus vite. Mmh. Et parce que ce qu'on se disait samedi soir au match contre Montpellier, heureusement que ce n'est pas Brest, parce que Ajorque en pointe, avec des Pereira Lage et compagnie qui sont des bons joueurs de ballon, des Sima et tout, on les a vus en Ligue des Champions, ils ont
c'est
pas
vrai
été
que l'effectif du Stade Brestois, il est quand même de meilleure qualité que celui de
Montpellier. Mais les matchs qui nous attendent seront de cet acabit.
Première mi-temps que tu fais contre Montpellier, tu joues contre Brest, tu te fais défoncer. Hein. Parce que les mecs, ils sont Montpellier, ils ont eu des situations, mais tu vois qu'ils manquent d'expérience, qu'ils manquent même de talent pour certains. Et tu es arrivé à compenser, tu prends un but parce que Luis Enrique, c'est pas qu'il faut marquer le mec pour l'empêcher de mettre sa tête et de fusiller le goal. Ouais. Donc il le laisse faire, il s'arrête, il le regarde marquer. Si tu défends, au moins tu le gênes. Enfin, je veux dire, tu le prends pas le but. Mais en plus qu'au départ, il y a une relance ratée de Kondogbia. Mais ça arrive.
Un geste malheureux, voilà. Malheureusement, mais compensé est la chose que font tous les joueurs, nos joueurs, puisque s'entraider, être soudé et continuer. Malheureusement, voilà. Nous n'avons pas le choix de faire autrement.
Et Brest, c'est costaud. Et moi, je crains ce match contre Brest, parce que c'est le dimanche soir, c'est un match très regardé. Et les Brestois, il y a aussi des mecs qui ont envie de se montrer. Quoi.
C'est vrai que cette équipe Brestois, cette année, elle a quand même joué la Ligue des Champions et elle a fait un parcours plus qu'honorable dans cette prestigieuse compétition européenne. Donc, c'est vrai que pour les joueurs des Rue-Croix, ce sera un match très important qui sera vraiment scruté de très très près pour cette fin de saison.
Et voilà. Tu peux avoir des joueurs à Brest qui ont envie de se montrer.
Voilà. On rappelle que... juste pour nos auditeurs, cette équipe brestoise, pour l'instant, elle est 9e au classement. Bon, elle reste sur une défaite à domicile face au Racing Club de Lens le week-end dernier. Mais bon,
justement, elle suit Lens au classement. Donc voilà. Maintenant, sont-ils impactés par la fatigue qu'a généré tous ces matchs ? Brest, oui, probablement, mais cela suffira-t-il pour nous pour l'emporter aisément ? Bon, je l'espère. En tout cas, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Voilà, et moi, ce que je pense, c'est qu'un dimanche soir, au Vélodrome, un prime time sur DAZN, voilà, la fatigue, tu l'oublies. Les mecs, ils vont y aller, à mon avis, ils vendront chèrement leur peau. Surtout que là, ils perdent contre Lens chez eux. S'ils ne perdent pas contre Lens et qu'ils gagnent, ils se retrouvent à un point de Strasbourg. Hein. Ils étaient à portée de fusil. Donc là, à mon avis, c'est trop loin. Hein. Ouais.
Voilà, c'est vrai que pour ambitionner d'aller chercher une qualification en Coupe d'Europe, un succès face au Saint et Or Lensois, ça aurait pu les relancer totalement.
Ça les relancer pour la 7e place.
Mais là, au-delà de la victoire de prestige à laquelle ils aspirent probablement, voilà, je ne vois pas pourquoi ils laisseraient filer le match en jouant à la baballe.
Oui, donc moi, je pense que ça va être un match essentiel. Parce qu'après, tu vas à Lille. Attention que Lille, ils se battent pour la qualif en Champions League aussi. Et Lille, ils ont montré là aussi en Ligue des Champions.
C'est une équipe à disputer la Ligue des Champions.
C'est une belle équipe avec un bon entraîneur. Et donc, ça va être compliqué. Si tu perds, que tu te retrouves au 3e ou 4e et que tu vas à Lille dans ces conditions-là, ça peut être compliqué.
Et Genesio a ses joueurs avec lui.
Donc le match contre Brest, il est extrêmement... C'est pour ça, à mon avis, qu'il y a la retraite et qu'il y a la mise au vert en Italie. C'est parce que ce match, il est crucial.
Qu'elle nous soit bénéfique.
Voilà, si tu le gagnes, même tu vas à Lille, tu es tranquille. Parce que même battu à Lille, tu restes en Ligue des Champions. Quels que soient les résultats, parce que tu restes dans la course. Si tu venais à ne serait-ce que lâcher nul contre Brest,
ça serait fort.
Parce que c'est vrai que quand tu regardes le calendrier, il y a l'AS Monaco qui est juste derrière l'OM. Et là, il y a deux déplacements pour l'AS Monaco, au Havre et à Saint-Etienne. Ensuite, il y aura la réception de Lyon et un déplacement au Stade Bollard à Lens pour la 34e et dernière journée. Donc, c'est plutôt un calendrier. Assez compliqué pour les joueurs de la principauté.
On rappelle, pour ceux qui ont un peu de mémoire, qu'il y a 3 ou 4 ans, l'OM jouait Strasbourg au Vélodrome, c'était avec Sampaoli.
Sampaoli sur le banc.
On avait gagné 4-0, Strasbourg et Metz et Lyon, Monaco. Ils ont été tenus en échec à Lens et on leur passe devant pour la qualif en Ligue des Champions grâce à ça. Donc, je veux dire, à Lens, ça ne sera pas joué. Et donc, oui, il y aura les autres, auront des matchs compliqués. Nice, il joue à Paris demain soir.
Demain, ouais.
Donc, va être le comportement du Paris Saint-Germain ? Bon, ça, c'est une parenthèse qu'on peut refermer. Mais bon, le money time est tellement crucial que tous ces clubs que nous avons cités et ces matchs à venir que...
Donc bon, là, après, c'est vrai qu'on on se demande si les joueurs de Luis Enrique sont encore motivés au niveau du championnat. Bon, après, on sait que le jus de paix pour cette équipe parisienne, c'est la Ligue des Champions. Et on sait qu'ils seront à 4 jours d'un déplacement à Londres face à Arsenal la semaine prochaine en Ligue des Champions.
Nonobstant, j'aime ce mot, la finale de la Coupe de France. Mais c'est une parenthèse
contre
plutôt
Rennes,
rigolote.
Oui, voilà. Mais disons que la chance qu'on a, entre guillemets, c'est qu'ils ont l'histoire de l'invincibilité qui veulent aller au bout. À mon avis, ils veulent y aller.
Ouais.
Dans le vestiaire, ça
c'est vrai qu'en
parler.
Plus, c'est un record qui n'a jamais été battu
en France. Voilà, donc ils veulent l'invincibilité. On l'a vu à Nantes où quand ils ont pris le but égalisateur.
Il y a eu ce match en retard disputé
ils se sont réveillés alors
cette semaine.
Ils jouaient à la baballe et ils sont allés au charbon et Gonçalo Ramos, il met une tête sur la barre. Ouais. Voilà, le dedans, c'est pareil. Et donc, ils se sont réveillés quand Nantes a égalisé. Quoi. Et donc, tu sens que les mecs, ils tiennent à l'invisibilité. Et donc, on peut espérer, tant mieux pour nous, pour une fois qu'on va être... on serait content si Paris gagnait un match, on va le signaler. Quoi. Mais voilà, donc, ça peut nous aider parce qu'ils lâcheront pas facilement. Quoi.
Bon, il est évident qu'il faut cesser peut-être de regarder nos adversaires, leur comportement et leurs résultats. Ce qu'il nous reste à faire, et nous sommes unanimes, c'est de gagner les matchs qui nous attendent.
Donc, essayer de prendre 12 points sur 12 sur les 4 derniers matchs.
Au moins 9 points. Ouais. Si tu prends 9 points, tu es en Ligue des Champions.
Oh, voilà. Tout à fait.
Voilà. Donc, il faut les prendre. Voilà. Et c'est vrai que psychologiquement, le match de Brest dimanche, il est essentiel. D'abord, tu comptes les 3 points. Parce qu'à Lille, gagner, ça ne sera pas commode.
Au-delà de l'arithmétique.
Pour vous, le match le plus compliqué sur les 4 derniers matchs, c'est la réception de Brest dimanche ou le déplacement à Lille la semaine prochaine.
Difficile de quantifier cela. Tous les matchs sont compliqués dans la mesure où ils sont simples. L'ambivalence est claire, pas trop. Non, sauf que oui, nous commençons par Brest, comme tu le dis, Patrick. Gagnons celui-ci et ensuite on peut dire que Lille c'est compliqué, c'est certain, mais on partira en tout cas sur cette base de victoire. Voilà.
Mon analyse, c'est tu as 4 matchs, il y a 12 points à prendre.
Il faut éviter de griller un joker de nouveau à la maison. Donc, victoire impérative face à Brest ce dimanche.
Ils n'ont pas 12 points.
Ouais.
Ton joker, c'est à Lille. Un match nul, c'est un très bon résultat. Et même si tu perds, tu n'es pas exclu de la Ligue des Champions. Si tu viens à perdre chez toi contre Brest ou à concéder un nul, mentalement, je ne te dis pas la pression que tu vas avoir. Toutes les télés, les radios, toutes les 10 secondes, le débat, l'OM va-t-il tout perdre et compagnie.
J'imagine déjà la réaction du public à la sortie du stade en cas de contre-performance contre Brest dimanche.
Ne pensons pas à cela.
Voilà, j'ai des risques.
C'est un cas de figure qui peut éventuellement se produire, mais bon, on exclut totalement cette hypothèse.
Voilà, tu as des risques, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant quand tu joues contre Montpellier au Vélodrome, samedi soir, le public t'a porté, t'a ovationné. Alors, Harit, c'est parce qu'il revient de blessures et tout, mais l'équipe t'a porté. Et donc, quand les mecs Benacer est rentré, il a été applaudi, Rowe a été applaudi, alors que c'est pas un joueur qui est... Voilà. Donc, le public, il te soutenait, il était derrière.
Oui, cela, justement, est plus que palpable.
Voilà. C'est vrai que le rôle du Vélodrome, il va être essentiel dans cette dernière ligne droite.
Si tu viens à lâcher des points contre Brest... Et que tu perds à Lille, tu vas jouer contre Rennes chez toi, ça risque d'être un peu chaud.
Leur comportement est prépondérant au stade. On l'a bien vu face à Montpellier.
Là, regardais...
J'ai du mal à imaginer à Bibey, un ancien Olympien qui lâche l'affaire comme ça lors de la dernière journée.
Après, les mecs, c'est la dernière journée, ils sont au milieu du tableau, ils risquent rien. Ils viendront, mais bon, ils ne seront pas. Toi, si tu as la Ligue des Champions derrière, j'espère que tu mettras le couteau entre les dents.
Oui, c'est un danger qui peut être le freestyle d'une équipe adverse.
Samedi, contre Montpellier, il y avait une banderole au virage nord qui était Greenwood, Luis Enrique, bougez-vous.
Ouais.
Ça restait bougez-vous. C'était pas le cul, hein, c'était bougez-vous. Ouais. Voilà.
Mais là, ça peut.
Ça peut monter en gamme et ça peut être. Voilà. Alors là, on sait que contre Brest, ça a été annoncé. Il y aura le tifo que les Winners avaient fait pour le pape quand il est venu faire la messe au Vélodrome.
Belle initiative, très très belle initiative.
Voilà, ils vont faire le. Donc le public va te porter. Il faudrait pas que tu. Je pense que le public te soutiendra, mais il faudrait pas qu'à la fin du match, tu aies lâché les points.
Et il y aura encore une belle affluence au Vélodrome, ce week-end, c'est plus les vacances, c'est plus le week-end de Pâques, mais on annonce encore plus de 65 000 spectateurs dans l'enceinte du boulevard Michelet.
Mais j'aimerais, Thierry, c'est quand même assez improbable et hallucinant, et pourtant si vrai, qu'il y ait des records d'affluence à Marseille à chaque journée où l'OM dispute un match à domicile. C'est fabuleux, c'est tellement beau.
Et malgré une saison compliquée,
sans Coupe d'Europe. Et là, on rappelle que samedi contre Montpellier, les Montpelliérains étaient interdits de déplacement, les supporters.
Beaucoup d'équipes. Parce qu'il y a eu des incidents lors du déplacement à la Mosson au mois de décembre.
Et puis bon, avec les histoires, ils ont fait le feu. Ils ont fait arrêter le match que Montpellier a perdu contre Saint-Étienne d'ailleurs. Tu as vendu toutes les places du parcage visiteur. Tu as 66 300 et quelques spectateurs recevoir le dernier.
Ouais.
Et donc, c'est important. Et c'est vrai que le fait que le stand te soutienne, t'encourage...
Qu'il y a un engouement extraordinaire derrière cette équipe.
Ça a chanté tout le long. Il y avait même, je pense que les Winners seront suspendus contre Rennes parce que les fumigènes, je pense que la commission de discipline ne va pas aimer.
Oui, pour la dernière journée, voilà, ça ne sera pas bien grave.
Voilà. Mais disons que là, les fanatiques seront suspendus contre Brest.
Oui, c'est vrai que... voilà, y a...
par disons rapport, que tu as besoin de ton stade. Alors, voilà. Et donc, ça va être important. Donc, le match de dimanche, il va être, à mon avis, essentiel. D'où la volonté de De Zerbi de récupérer Balerdi, d'où le fait de relancer, il parle même de Moumbagna, de relancer en fin de match, de faire entrer Moumbagna.
Ben, je pense que nous le verrons, et je l'espère aussi pour lui et pour l'équipe.
Vous y croyez, un petit rôle de Faris Moumbagna, l'attaquant camerounais, qui a été gravement blessé lors de la première journée, lors du match aller au Stade Francis Leblé au mois d'août dernier.
Ouais. Ça dépendra des circonstances et des matchs à venir. Peut-être il aura l'occasion d'entrer, non pas titulaire.
Parce que sur ce qu'on peut voir, si on parle technique, c'est que De Zerbi...
Très rapidement, puisqu'il nous reste très peu de
très
temps.
Très peu de temps. Voilà. De Zerbi fait jouer beaucoup Jonathan Rowe au détriment de Mopé. Neil Mopé.
Ouais. C'est vrai que c'est pas le même Neil Mopé, il a reculé dans la hiérarchie.
Neil Mopé, c'est un avançant de surface. Et Rowe, c'est un mec rapide qui appelle sur les côtés. Et Moumbagna, c'est le même genre. Ouais. C'est-à-dire, c'est un mec rapide qui, en plus, c'est un
avec de la puissance.
Voilà, très puissant, qui appelle sur les côtés. Mm-hmm. Donc, tu peux avoir un rôle à jouer à Lille ou au Havre avec fer de lance que tu envoies des ballons, tu as des Greenwood, tu as des Højbjerg, des Rabiot, des mecs capables, des Bennacer. Tu vois la passe qu'il fait Rabiot sur le cinquième but.
Oh oui.
Bon, elle est aidée par le fait qu'il y a eu Montpellierin qui n'était pas remonté pour mettre en jeu. Mais bon, Rabiot...
Il y a le positionnement aussi du gardien montpellierin, Benjamin Lecomte, qui n'est pas de tout reproche.
L'autre, il lui vient seul devant. Hein. Ouais. Mais tu vois, quand tu regardes les images, que Rabiot, il regarde le mec, il n'est pas remonté, donc il n'est pas en jeu. Mais il est à la limite, il a le temps de contrôler, d'ajuster le gardien. Et donc, je pense qu'il est possible que Moumbagna, puis c'est un mec qui rentre, qui amène du jus, qui amène de l'ambit, qui amène de... Voilà. Donc, ça peut être effectivement des petits trucs comme un Harit qui t'amène un petit plus. Et c'est des petits détails qui font des fois les qualifs et...
qui font la différence.
Tu peux en avoir besoin.
Je suis totalement d'accord.
Voilà.
Voilà. Ben, c'est sur ces derniers mots qu'on va se quitter. On donne rendez-vous à nos auditeurs pour la semaine prochaine. Et on reviendra donc sur ce match de Brest dimanche soir à 20h45 dans l'enceinte du Stade Vélodrome.
Ça arrive aussi vite.
Voilà. Pour la 31e journée. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se retrouve lundi prochain, même heure et même endroit pour un nouveau rendez-vous de 100% foot.
Allez,
bye bye.
Bonne journée à tous.